Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Quel plaisir de vous avoir à ma table. Je parle comme un restaurateur, cuisinier étoilé, mais pas seulement. Vous êtes formé chez Taïwan, chez Le Doyen, je vais faire court. Vous êtes posé au château Corday-en-Bage, vous avez obtenu 2 étoiles au Michelin. En 2011, vous avez pris la direction des cuisines du Palace, le Mandarin Oriental, où vous avez retrouvé ces 2 étoiles, parce qu'évidemment, on les perd quand on quitte un endroit. Le grand public vous connaît également parce que pendant 4 saisons, vous avez été juré dans l'émission Top Chef sur M6. On est ici une émission média. Vous avez également ouvert des écoles, des centres de formation, mais c'est pas tout. Vous vous lancez dans la presse avec la création d'un magazine. Ce magazine s'appelle Bon, B-O-N. Il y a beaucoup de personnalités qu'on est venu chercher pour faire un magazine autour de leur nom et de leur notoriété. Michel Simès, Sophie Davant, Jean-Pierre Pernaut, Stéphane Plaza, notre copain Mariotte, Faustine Bollard. Mais là, c'est différent. C'est vous qui avez créé ce magazine. Avec quelle idée de départ, quelle envie?
Avec l'idée de départ qu'il y avait beaucoup de monde dans les cuisines depuis des dizaines d'années. On parlait beaucoup d'ingrédients transformés, mais on ne parlait pas de l'univers global de la gastronomie et de l'alimentation. Donc je trouvais que c'était intéressant de montrer que dans cette cuisine, dans cette gastronomie, il y avait de la sociologie, il y avait une histoire d'alimentation, il y avait de la philosophie, il y avait de l'économie, parce que c'est vraiment très lié au monde de l'alimentation, et je trouvais qu'il fallait en parler. Edgar Morin a compris ça et a accepté une interview, etc. Beaucoup de gens qui ont accepté, Pierre Gagnère aussi, il y a des chefs, mais il fallait parler de cuisine autrement, et de l'univers de la cuisine globalement, et pas simplement de recettes, et puis de montrer que l'alimentation, c'est un enjeu politique. On sans s'en rendre compte, c'est quand même quelque chose qui touche l'intime de chacun, et il est bon de savoir ce qu'on mange et qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, son impact social et son impact environnemental.
Edgar Morin, pour qui ne le connaîtrait pas, c'est un philosophe. Vous dites « J'ai voulu aborder l'alimentation avec un autre regard que celui du cuisinier. » Alors, on connaît l'adage « La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires. » Est-ce que c'est la même chose pour l'alimentation et pour la cuisine ?
Je pense que c'est la même chose pour la cuisine. Il est certain que le cuisinier, l'artisan cuisinier, ne va grandir que s'il nourrit aussi son esprit. Tous les grands chefs que j'ai croisés, que ce soit Joël Robuchon, Claude Delingue, Alain Chapelle, Jacques Maximin, sont des gens qui ont puisé dans l'histoire, dans la culture de l'alimentation, et ont continué à faire évoluer leur cuisine. Donc je pense que ce magazine sert aussi à s'ouvrir l'esprit sur d'autres choses que simplement transformer des ingrédients.
Alors quand vous dites d'autres choses, j'avais encore jamais vu ça, c'est un magazine de cuisine avec quasiment aucune photo de cuisine. Je parlais de tous ces magazines construits autour d'une personnalité, il n'y a pas votre photo en couverture, il y a juste votre nom. Pourquoi ce choix ?
Parce que d'abord avec Romain Jubert, qui m'aide beaucoup évidemment dans ce magazine pour la rédaction, je ne voulais pas faire quelque chose de trop personnel. Je ne suis pas là pour développer mon ego sur un magazine, mais bien au contraire, d'essayer de réfléchir ensemble à ce qu'est l'alimentation. Donc il faut... je pense que ça aurait été surfait de y mettre son portrait partout.
Alors, vous n'êtes pas partout, vous écrivez un papier, je vais en parler. Je vais juste dire qu'il y a plein d'articles totalement, plutôt qui partent dans toutes les directions. Et ce n'est pas la moindre des qualités de ce magazine. Mais je vais aller à votre papier central. Le titre de votre papier central, « Le bon, c'est la fin du low cost ». Vous écrivez et vous insurgez. Vous avez bouclé quand le journal ?
Quelques semaines avant.
Il y a quelques semaines.
Avant l'histoire.
Il dit, il écrit Thierry Marx, j'ai entendu dernièrement une publicité pour une marque de distribution pour une baguette à 0,65 euros. Texte qui fait écho avec l'actualité parce que entre le temps où vous écrivez ce papier et le moment où le journal est imprimé, Leclerc annonce avoir bloqué le prix de sa baguette à 29 centimes. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus.
J'étais irrité, vraiment, cette théorie du low cost qui revient, et avec le vieil adage de dire qu'on fait ça pour les modestes. Or que c'est ce qui a oxydé depuis 70 ans l'économie française, c'est cette théorie du low cost, et la théorie du low cost, c'est la théorie du renoncement. Tu renonces à la qualité, en échange de quoi je te fais un prix. Et ça, c'est intolérable, parce que c'est pas parce que depuis 70 ans, on écrase les marges des producteurs, qu'on sert les consommateurs. C'est faux. Et je trouvais que la grande distribution qui était dans le hard discount, qui passait d'ailleurs dans le smart discount, on avait plus de fruits, plus de bio, plus de circuits courts, je trouvais que cette histoire de baguette, c'était une mauvaise rechute. Alors évidemment, je ne montre pas du doigt cette enseigne, mais bon, comme Édouard Leclerc me charrie un petit peu là-dessus, et je sais qu'il aime le... Michel Édouard Leclerc, je sais qu'il aime la BD, et je le compare un peu à l'oncle Picard. sous. C'est-à-dire que
il m'a
charrié avec Gottlieb et tout ça. Et je trouve que c'est un peu ça. Moi, je suis pas né dans un coffre-fort, donc j'ai fréquenté ces enseignes très longtemps, avec des fois des budgets extrêmement courts. Donc je comprends son discours. Mais à un moment donné, avancer les grandes théories du low cost en disant je fais ça pour les plus modestes, c'est un côté dérangeant, presque un peu cynique.
Ce n'est pas un journal militant, c'est un journal ouvert, c'est un journal philosophique. Il a été créé par Thierry Marx. Vous restez avec nous, on n'a pas raconté les autres papiers qu'il y a dans ce premier numéro de Bon, qui est d'ailleurs noté numéro 2, Culture Média continue. Belle. Les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas Molière, c'est Thierry Marx. Bon, c'est un magazine, un trimestriel que vous lancez alors qu'on vous connaissait comme chef étoilé. Magazine formidable parce que ça part vraiment dans tous les sens. On apprend beaucoup de choses. J'ai découvert avec vous ce qu'étaient les Dark Kitchens, comme il y avait le Dark Web, c'est une sorte de web sous l'internet officiel. Ce sont quoi les Dark Kitchens ?
Alors les Dark Kitchens sont des restaurants pas ouverts finalement, sont que des cuisines où va pouvoir s'approvisionner toutes les plateformes qui distribuent de la nourriture. On les connaît, il y a deux grandes plateformes en France, mais il y a deux grandes plateformes dans le monde.
C'est un peu comme ce qu'on appelait autrefois les appartements raviolis, où les restaurants chinois de Paris étaient irrigués par ces endroits-là.
Oui, sauf que ça a grandi, ça s'est légalisé, et là les Dark Kitchens, elles sont parfaitement légales. C'est-à-dire que il y a des restaurateurs qui vendent leurs produits dans leur restaurant et puis qui ont compris que la digitalisation, on n'allait pas pouvoir reculer et qu'il allait falloir... Donc c'est pas très intéressant d'avoir des vélos et des scooters devant son restaurant. Donc on déplace la problématique, on copartage des fois une dark kitchen avec d'autres restaurateurs et on peut envoyer directement chez le client qui se fait livrer.
Pourquoi ça vous contrarie en dehors du fait que ça vous retire du business,
non,
si c'est de la qualité ?
Alors, ça ne me contrarie pas du tout. C'est juste un état de fait. C'est-à-dire que au premier confinement, quand mon métier a été, démonétisé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui est possible ? Et on a vu ces plateformes accélérer leur croissance. On parle de plus de 2 milliards de croissance pour ces plateformes. Donc, il y avait intérêt à ce que les restaurateurs réfléchissent à ça. Donc, il y a des dark kitchens qui sont plutôt assez médiocre et assez industrialisation de la cuisine, et puis d'autres qui sont très intéressantes pour des chefs qui peuvent avoir à signer une cuisine en dark kitchen.
Vous dites autre chose absolument passionnant, j'avais jamais vu les choses sous cet angle, vous dites que les Français se sont focalisés sur la grande cuisine, et c'est tant mieux, ils ont complètement oublié la cuisine populaire, la cuisine de rue, et nous on ne sait plus faire, alors qu'on peut trouver ça dans les rues de Séoul ou dans les rues de Rome.
Oui, c'est complètement vrai, la France dans les années 70 a commencé sa période d'industrialisation. Alors on a vu toutes ces cafétéria autour des grands centres de consommation, et on a vu disparaître les bistrots de campagne. Et ça nous a coupé de notre culture rurale, qu'on le veuille ou non. Ce qui n'a pas été le cas en Italie, par exemple. En Italie, on peut manger bon et pas cher dans beaucoup de villages italiens, et ça, ça a disparu de la France parce qu'à un moment donné, on est tombé dans le panneau de l'industrialisation de la cuisine.
Alors là, c'est pour le sérieux. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ce magazine. Par exemple, une idée formidable pour les parents qui vont au restaurant avec les enfants. Les enfants, quand ils ont 6, 8, 10 ans, ils s'ennuient au resto. Le repas dure trop longtemps pour un enfant. Vous avez eu une idée de jeu très créative. C'est une fiche de dégustation à remplir, comme si on était chez Champérard ou Goemio.
Exactement. On préformate, on demande à ces jeunes gens de devenir des critiques gastronomiques, finalement. Qu'est-ce qu'ils apprécient ? Alors, c'est un outil utile, parce que quand vous avez le feedback, que vous lisez ça, eh bien, vous dites, ah tiens, c'est comme ça qu'un enfant de 10 ans perçoit mon établissement, c'est comme ça qu'un adolescent perçoit mon établissement. Et finalement, ça peut vous permettre de corriger un petit peu le sens de l'hospitalité de votre établissement.
Il doit mettre des notes sur 5 ou sur 10, la beauté du décor, l'ambiance du resto, la qualité de l'accueil, et puis entrée, plat, dessert. Le gamin ou la petite fille doit raconter ce qu'il a aimé avec des notes. Vous revenez aussi sur une publicité mythique des années 90, c'est la fameuse pub « J'ai craché dans mon yop », pub réalisée, je l'ai appris grâce à vous, par Bertrand Blier quand même, excusez du peu. On l'écoute, vous nous racontez une histoire. Alors je vais donner le contexte de l'image, que là on n'a que l'image. Ça se passe dans la rue, il y a un jeune ado qui se balade avec son yaourt à boire à la main. Il est très content d'avoir son yaourt à boire, mais derrière lui, il y a une bande de jeunes qui l'accostent et ils sont plutôt menaçants.
Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein ? Eh, ce serait pas un yop ?
Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas l'extase. Bon, c'est une espèce de yaourt litting.
Fais-le boire ton yaourt !
Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans.
Hein ? T'as craché dans ton yop ?
Ah, mais c'est grave ça, oh ! Hey !
Non mais sans blague, ils vont pas me tirer mon yop quand même.
Vous avez retrouvé le publicitaire de l'époque qui avait signé ce film, Gérard Jean. Racontez ce qu'il vous a raconté.
Ouais, ce qu'il raconte, c'est marrant, c'est qu'il sort ça et vient le patron de la boîte, veut pas. Mais trop tard, c'est sorti.
Et donc redirez-moi ça tout de suite.
Il a reçu une lettre d'insulte du patron.
Mais il a reçu une lettre d'insulte mémorable. Et mais trop tard, le coup était parti. Et finalement, quelques semaines après, il dit c'est génial, la pub, ça cartonne. Et voilà, comme quoi, un contre-pied, déranger des cercles par moment, ça sert à quelque chose.
Au point que vous donnez le chiffre, Yop faisait la moitié du chiffre d'affaires de Yoplait après cette publicité dont le patron ne voulait pas.
Exactement.
C'est toujours intéressant.
Comme quoi, il faut déranger le patron de temps en temps.
Dans l'édito, vous écrivez, Thierry Marx, à la différence des médias qui infiltrent les cuisines, nous invitons également à en sortir pour réfléchir au bon. Vous trouvez qu'il y a trop d'émissions de cuisine à la télé ?
Je trouve qu'il n'y a pas trop d'émissions de cuisine. Je parle qu'on ne parle pas assez de cuisine. On voit beaucoup de fighting cuisine, on voit beaucoup de concours de cuisine. Mais à un moment donné, j'aime bien retourner aux racines de la cuisine, c'est-à-dire chez le producteur.
Il y a beaucoup de reportages là-dessus.
Oui, mais est-ce qu'ils sont dans le détail ? Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver une émission qui nous parle de qu'est-ce qu'un bon produit ? Son impact social, son impact environnemental. Et je pense qu'on pourrait redoubler d'attention un petit peu là-dessus. Et il y a des pistes à creuser.
Et puis, dans une interview de l'AFP, c'était en juin dernier, vous disiez, si vous regardez la cuisine en détail, elle n'a pas évolué depuis les années 80, mais il y a maintenant tel chef, dites-vous, avec des dreadlocks, un autre avec des tatouages, un autre qui revendique de sauver la planète. Pourquoi ça vous énerve ?
Ça ne m'énerve pas du tout. Moi, je ne fais qu'un constat. Je suis plutôt, je regarde les faits, ensuite, je suis plutôt bienveillant.
Non, mais quand vous dites qu'il y en a qui a des tatouages, qui a des dreadlocks, ça sous-entend que leur première qualité n'est pas la cuisine.
Alors, non, là où on s'interroge avec la rédaction, c'est de se dire, est-ce qu'on consomme de la cuisine ou est-ce qu'on consomme de l'image ? Si je vous parle de gens comme Alain Chapelle, par exemple, on parlait de langouste à la verveine, on n'avait pas besoin de voir le chef, on goûtait ça, on disait « Ah non, mais ça c'est du Chapelle, ça c'est du Maximin, ça c'est du Ducasse, ça c'est du Robuchon ». Donc il y avait cette référence au produit et à la cuisine. Après, aujourd'hui, on a une image d'un homme, et là, ça fait beaucoup de Mozart assassinés. Mmh. Parce que la durabilité, il va falloir la justifier.
Pour vous donner raison, on avait fait un sujet ici dans Culture Média la première saison. Vous savez pourquoi il y a autant de restaurants autour de l'avocat ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus télégénique sur Instagram.
Mais je suis d'accord. On mange des images.
Vous êtes le directeur de l'application de Bon, co-directeur avec Romain Jubert, vous l'avez cité. C'est quoi le modèle économique de Bon ? Il faut vendre combien de numéros ? Oh là ! Thierry Marx rigole déjà avant la question.
Il y a par moments, des fois, je me dis, je me fous du modèle économique. Si on survit, on en fait un deuxième, et puis un troisième, c'est un trimestriel. On est bien parti. Bon, maintenant, voilà. Je pense que si je regarde la tirelire, eh ben, quand il n'y a plus de sous dans la tirelire, on verra bien. Quoi.
D'accord. Il y a des échanges marchandises ou pas du tout ?
Il y a un peu de pub. Il y a un peu de pub. Alors, on espère développer un peu plus de pub. Et puis, d'être suivi. Globalement,
non, je dis ça. Et je précise qu'à la fin du journal, il y a même des blagues soviétiques qui m'ont beaucoup fait rire. Elles sont trop longues pour être racontées ici. Merci Thierry Marx d'avoir été avec nous.